Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous. Et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et j'ai aujourd'hui le plaisir, pour parler de jeux et de guerre, de wargame en somme, j'ai donc le plaisir de recevoir Antoine Bourguillot, journaliste et traducteur, doctorant aussi à Paris 1, où vous préparez une thèse sur l'histoire du wargame en France, et vous venez de publier sur un sujet proche mais plus large quand même, « Jouer la guerre, une histoire du wargame » édité par Passé Composé et le ministère des Armées. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre Jublin.
Alors, je vais préciser que c'est un thème dont on a déjà parlé dans le Collimateur il y a maintenant longtemps, plus d'un an et demi, avec Pierre Razou, qui était à l'époque directeur de recherche à l'IRSEM, qui est maintenant parti vers d'autres horizons, en plus d'être concepteur de wargame, puisqu'il est l'auteur de Bloody Downs sur la guerre Iran-Irak et de Fitna sur la situation syrienne. Donc on peut renvoyer les auditeurs qui veulent approfondir tout ce qu'on va dire vers cet épisode, où vraiment on essayait à l'époque de décrire ce qu'est un wargame, comment ça fonctionne, comment on en crée un aussi, pourquoi, enfin bon, dans quel objectif, disons, pédagogique. Cela dit, ce sujet qu'est le wargame vaut largement un deuxième podcast, surtout en français, surtout à destination d'un public français, tant c'est un réel, alors si ce n'est un retard français, au moins un décalage culturel, notamment dans les milieux militaires, mais pas seulement, où on joue relativement peu en France, en tout cas c'est où c'est très loin d'être un réflexe et une partie intégrante de la formation, et notamment de la formation militaire, comme ça peut l'être à l'étranger, et notamment dans le monde anglo-saxon. Et l'angle qui va nous occuper aujourd'hui va donc être davantage historique, puisque c'est bien le propos de l'ouvrage, mais va peut-être aussi indirectement nous aider à comprendre les raisons de ce décalage. Alors d'ailleurs je parle de wargame, j'ai déjà dit le mot deux, trois fois, je m'excuse pour les gens les plus chatouilleux d'employer cet anglicisme en permanence, on va en avoir besoin, on va avoir un germanicisme aussi assez rapidement, mais j'en profite pour vous demander, on n'a pas de bon équivalent français de wargame, on n'a pas de traduction, disons, idiomatique?
Alors, la traduction littérale, ça serait évidemment celle du jeu de guerre, puisque c'est littéralement ce que cela signifie. C'est aussi ce que signifie le premier mot, qui est effectivement un mot allemand à la base, qui est le Kriegsspiel. En France, on a deux mots, en fait, deux expressions qui le recouvrent. Le premier, c'est effectivement celui du jeu de guerre, même si le terme de wargame et de wargaming sont les plus répandus. On utilise aussi beaucoup le terme de jeu d'histoire, parce qu'il se trouve qu'il y a une énorme tradition de jeux en particulier qui sont vendus dans le commerce et qui ont la caractéristique d'être des jeux qui simulent des batailles du passé. Par ailleurs, il se trouve que, évidemment, les termes de jeu et de guerre accolés ont tendance parfois à poser problème à des gens qui ont tendance à considérer que les termes de jeu et de guerre sont des mots qui ne vont pas du tout ensemble. L'objectif de ce livre était de montrer, entre autres choses, qu'en fait, le jeu et la guerre peuvent être tout à fait liés.
Alors, justement, pour tant qu'on en est sur les définitions, et voilà, pour partir, disons, d'une base solide, commençons par vous demander ce qu'est un wargame exactement, quand ça apparaît aussi. Alors, voilà, pour le dire clairement, par exemple, quand je joue aux dames, ou quand je joue aux échecs, dont la métaphore militaire en dessous est quand même relativement apparente.
Bien sûr.
Est-ce que je fais du wargame?
Alors non. En fait, le wargame, alors pour essayer de reprendre la définition qui en a été donnée, alors beaucoup de gens ont essayé de le définir et la définition n'est pas forcément aisée. Francis McHugh, dans un essai en fait, qui a été publié au sein du Naval War College qui s'appelle The Fundamentals of Wargaming, le décrit alors, comme une simulation d'aspects choisis d'une situation de conflit selon des règles, des procédures déterminées qui s'appuient sur des données et qui visent à offrir à ceux qui y jouent des informations ou une expérience qui soit applicable au monde réel. Donc ça, on va dire que c'est une définition que je qualifierais de procédurale.
Donc là, par exemple, pour les échecs, ce qui manquerait, ce serait l'applicabilité au monde réel ?
Alors, oui et non. En fait, on va dire que dans la tradition des jeux, on a deux grandes traditions, qui est la tradition qu'on va qualifier d'heuristique, c'est-à-dire une tradition des jeux dans laquelle il n'y a absolument aucune once de hasard. Alors effectivement, les échecs, les dames, le go, en sont une démonstration, enfin une illustration qui vient tout de suite. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle des jeux de type stochastique, c'est-à-dire qui s'appuient sur le hasard. Alors l'exemple extrême de cela, par exemple, ça peut être le jeu de loi. Alors le jeu de loi, c'est un jeu dans lequel il n'y a absolument aucune once de stratégie. On jette le dé, on déplace son pion, et puis en fonction des cases sur lesquelles on tombe, on peut avancer, passer son tour, revenir en arrière, etc. Mais il n'y a aucune once de stratégie. Les wargames, en fait, sont, on va dire, un petit peu à la mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, il y a effectivement une part de stratégie, comme on l'utilise quand on joue aux échecs ou aux dames, mais qui est tempérée par l'introduction du hasard. Ce hasard correspondant en fait, alors qui peut être introduit sous la forme soit de système de cartes, d'événements, soit de dés. Et ce hasard en fait servant à simuler ce que Clausewitz, dans son livre de la guerre, appelle la friction, c'est-à-dire l'imprévu.
Alors, mais alors du coup, quand on commence le wargame, c'est quoi le premier wargame, s'il y en a un?
Alors, si tant est qu'on puisse effectivement considérer qu'il y ait une pièce princeps, on pourrait dire qu'en gros, j'aurais tendance à la fixer à partir du moment où précisément les deux traditions, c'est-à-dire celle du hasard et celle du jeu purement mathématique, viennent se complémenter l'une l'autre, et c'est à la fin du 18e, début du 19e siècle. En fait, il faut le savoir que à partir de la fin du milieu et de la fin du XVIIIe siècle, il y a plusieurs jeux qui apparaissent, qui sont en fait des dérivés du jeu des échecs. Sauf que ces jeux-là, eh bien, au lieu d'être sur un terrain complètement plat, qui est le terrain des échecs, qui n'a pas de relief, eh bien, on utilise aussi un échiquier, donc des cases carrées. Mais sur ces cases, en fait, on intègre des éléments de terrain, donc des collines, des forêts, des bois, des routes, voilà. Et les pions ne sont plus, alors les tours, le fou, le cavalier, mais c'est de l'infanterie, des grenadiers, des dragons, des cuirassés, de l'artillerie. Et en fait, à partir de la fin du XVIIIe siècle, ces jeux-là se développent beaucoup, mais ils conservent encore leur caractère totalement heuristique.
Alors ce qui est intéressant, c'est justement peut-être, on va dire un nom, c'est celui peut-être l'inventeur du premier wargame moderne, c'est donc Johann Christian Helwig, donc dans l'espace germanique. Ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que c'est un mathématicien. Donc ça renvoie, disons, à la nature assez théorique, assez abstraite peut-être des échecs et des dérivés du jeu des échecs du côté du wargame.
Absolument. Il est clair qu'il y a une dimension mathématique très claire dans les jeux d'Helwig qui est liée évidemment à la personnalité qui les a créés. Et par ailleurs, il va sans dire aussi que dans l'intégration du hasard, il y a, en particulier dans le jeu qui est inventé par Opitz et qui est publié en 1806, une intégration donc du hasard et des dés. Et là, pour le coup, qui correspond à une autre tradition, qui est une tradition des jeux mathématiques. Alors évidemment, on pense pour le coup en France à Pascal, par exemple, hein, mais il y a d'autres mathématiciens qui s'intéressent à la question du hasard et en particulier des probabilités. Et en fait, c'est cette espèce de mélange entre d'un côté un jeu qui est entre guillemets assez abstrait, qui s'inspire des échecs, et l'introduction donc du dé et du hasard qui va produire en fait et qui va donner naissance à ce qu'on va appeler le Kriegsspiel, donc le jeu de guerre.
Mais alors la question, c'est pourquoi est-ce que ça apparaît à cette époque-là? C'est-à-dire, on sait que la guerre n'est pas exactement une activité secondaire dans l'histoire, par exemple dans l'histoire occidentale.
Certes.
Que par ailleurs, les rois ont, enfin les souverains d'une manière générale ont généralement besoin de se divertir. Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive à la fin de l'époque moderne et qui permet ou qui favorise en quelque sorte l'émergence de ce wargame, enfin de ces rudiments qui donneront plus tard le wargame?
Alors, en fait, comme souvent, évidemment, c'est une, il y a des, c'est, il y a des, c'est une multicausalité. Il y a bien entendu donc ces travaux sur les probabilités qui sont faits. Il y a évidemment ces avancées aussi sur les jeux, mais plus fondamentalement, on est dans une période, donc la fin le milieu et la fin du XVIIIe siècle, où les armées se professionnalisent beaucoup. Le maniement des armes à feu, par exemple, est extrêmement précis. Il est compliqué de charger son fusil. Ça nécessite tout un tas d'étapes. Voilà. Ensuite, il faut apprendre à manier non pas son fusil de manière individuelle, mais en formation. Donc, on emploie tout un système de feu, en particulier assez compliqué, par rotation, par peloton, etc. Pour la cavalerie, c'est pareil. On apprend à manœuvrer. Et en fait, l'artillerie aussi se développe, qui est l'arme savante par excellence. Et il se trouve que finalement, on se rend compte que ces officiers, ces soldats, apprennent leur métier. C'est-à-dire qu'ils apprennent à manœuvrer sur des champs de manœuvre. Voilà, ils font de l'ordre serré en caserne. On continue de le faire encore aujourd'hui. Et finalement, les seules personnes qui ne sont pas réellement formées et qui n'ont pas vraiment, véritablement l'occasion de se former à leur métier, ce sont les officiers supérieurs.
C'est-à-dire que les autres, ils peuvent apprendre à marcher au pas, ils peuvent apprendre à faire du drill, enfin bon, à automatiser dans une certaine mesure. Enfin, il y a un savoir-faire qui s'acquiert,
C'est
sauf
cela.
au niveau supérieur où ça reste un peu du domaine artistique, quoi.
Alors,
Enfin,
ça reste effectivement un peu abstrait, puisqu'on peut lire des traités, on peut lire des traités, ce qu'on fait évidemment. On peut regarder les récits des batailles modernes ou plus anciennes. Néanmoins, il n'y a pas de pratique. Et les jeux en fait de stratégie, les Kriegspiel, les wargames ensuite, le mot arrivera plus tard, à partir du moment où il va arriver dans le monde anglo-saxon, servent précisément à cela en fait. Alors, ils sont un outil de formation pour des officiers. Alors, on va dire des officiers d'état-major, même si les états-majors précisément apparaissent à cette période-là. Et à mon sens, c'est pas du tout un hasard. L'idée, c'est qu'effectivement les gens qui commandent des armées, les généraux et ceux qui les entourent, est une formation et une préparation à ce que c'est que la guerre, et surtout à ce que c'est que non seulement que la stratégie, mais à la manière dont on doit et où on peut la mettre en pratique, et surtout pour donner la place à ce qui est entre guillemets l'impensé général des manuels de stratégie, c'est-à-dire l'autre. L'altérité, parce qu'évidemment, vous avez un plan, vous l'avez développé, et votre adversaire en a un. Et en fait, le conflit, c'est l'affrontement de ces deux plans, le choc des volontés, comme le dit aussi Clausewitz. Et ce choc des volontés, en fait, il est très très difficile de s'y préparer. Les jeux, en fait, permettent de le faire.
Ouais, donc c'est une manière de se mesurer entre officiers sans avoir à sacrifier plusieurs milliers d'hommes.
Ah, c'est cela. Et puis surtout, effectivement, c'est un point très important, les jeux de guerre. Il s'effectue sur une table avec alors soit des pions, soit des figurines, soit tout un tas d'autres artifices. Et ils sont évidemment beaucoup moins onéreux et beaucoup moins coûteux que des manœuvres. Et évidemment, sans parler évidemment du conflit lui-même, il vaut mieux avoir des mauvaises surprises dans un état-major autour d'une table que de les avoir sur le terrain.
Ouais, je me permets par ailleurs d'ajouter un dernier élément sur lequel vous incitez aussi beaucoup dans le livre, c'est le développement de la cartographie, parce que
Absolument.
on n'y pense pas, mais un jeu de plateau, un plateau, c'est fondamentalement une carte.
Bien
Donc
sûr.
tant qu'on n'a pas de carte, enfin tant que la discipline cartographique n'existe pas et qu'on est dans une sorte de brouillard artistique sur
C'est
l'espace,
ça.
c'est difficile de le modéliser, c'est difficile de le jouer. C'est ces progrès-là, donc du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, qui fournissent en quelque sorte la condition de possibilité du Kriegsspiel puis du Wargame.
Absolument, parce qu'en fait, effectivement, le Kriegsspiel est un outil qui a besoin d'autres outils pour pouvoir se développer. Et effectivement, vous avez tout à fait raison d'y insister. La création du dépôt des cartes, en particulier en France, et pas qu'en France, donne aux états-majors tout un tas d'outils qui permettent de préparer en amont les campagnes et sur lesquelles vont pouvoir s'appuyer les créateurs de jeux.
Alors, ensuite, Comment est-ce que ça évolue dans les années suivantes, donc à partir de ce premier élément qui est Helwig, ses jeux, bon, et ensuite ses continuateurs, comment est-ce que ça évolue jusqu'à devenir une discipline à part entière, qu'on va appeler effectivement le Kriegsspiel, donc rappelons, c'est exactement la même chose que le Wargame, c'est le jeu de guerre, très littéralement. C'est-à-dire, comment est-ce que ça va se perfectionner, en plus avec cette particularité que je dévoile tout de suite, que c'est dans un espace très particulier, qui est la Prusse, enfin l'espace germanique en général, mais la Prusse en particulier, qui est une puissance importante, mais une puissance militaire un peu sur le déclin, ou en tout cas en stagnation. Donc comment est-ce, c'est-à-dire dans ce laboratoire, dans ce contexte très particulier, comment est-ce qu'on va arriver vers ce milieu du Kriegsspiel, cette discipline du Kriegsspiel?
Alors on pourrait dire que le Kriegsspiel, en quelque sorte, il est un petit peu l'enfant de la défaite de Iéna de 1806. La Prusse subit donc une défaite écrasante à Iéna-Auerstedt en octobre 1806. Elle se retrouve littéralement mise hors de combat, et les officiers prussiens sont évidemment tout à fait désolés et un peu honteux de la manière dont ils ont été littéralement écrasés par l'armée française. Et il se trouve que la défaite est souvent un excellent moyen de secouer les consciences, et c'est va donc être évidemment en Prusse, enfin, c'est pour ça aussi, entre autres, à mon sens, que ça se produit en Prusse, parce qu'en Prusse, on s'est rendu compte tout simplement qu'il y avait énormément de choses qui n'allaient pas, que l'armée s'était totalement sclérosée dans ses méthodes et dans sa vision stratégique, et il se trouve que des jeux ont déjà été développés dès la fin du XVIIIe siècle dans l'espace germanique, et que c'est à partir de ces travaux-là, en fait, qu'on va commencer à aller plus loin. Il n'est pas du tout anodin que ce soit effectivement un Prussien qui s'appelle Reiswitz, qui lui-même aurait aimé faire une carrière militaire, mais qui n'a pas pu le faire parce qu'il avait malheureusement une infirmité qui l'empêchait d'être militaire, secondé ensuite par son fils, qui lui est un officier de l'armée prussienne, qui vont commencer à partir des travaux qui ont déjà été effectués par d'autres, dont le fameux Helwig dont nous avons parlé, pour aller vers un jeu qui va petit à petit en fait abandonner le format des cases pour se recentrer sur celui de la carte. Et donc à partir de 1810-1812, donc période à laquelle encore une fois les Prussiens ne sont plus dans la guerre, ils vont y re-rentrer en 1813, des jeux sont développés et des prototypes sont d'ailleurs montrés aux souverains prussiens, dont un exemplaire d'ailleurs existe encore aujourd'hui à côté de Berlin, au château de Potsdam. Et ces jeux-là, en fait, les princes royaux vont également y jouer. Et ils vont jouer un rôle d'ailleurs non négligeable, une fois que le premier d'entre eux va arriver au pouvoir, dans la diffusion de ces jeux au sein de l'état-major. Reiswitz, fils, a déjà un pied dans cet état-major, puisqu'il est lui-même officier. Et en fait, on date souvent de 1824 le tournant en fait de l'utilisation des Kriegsspiel et des Wargames dans l'armée prussienne, puisque c'est la date à laquelle, c'est l'année durant laquelle les jeux sont introduits pour la première fois au sein de l'état-major prussien. De manière assez intéressante, le chef d'état-major prussien, qui s'appelle von Müffling, est au départ assez réticent. On lui force un petit peu la main, c'est le souverain de Prusse qui lui force la main pour que l'exercice se déroule au sein de l'état-major de l'armée prussienne. Et très rapidement, alors que l'exercice est en train de se dérouler, von Müffling déclare, selon des témoins, « mais ce n'est pas un jeu, c'est un entraînement à la guerre, je veux absolument que l'armée prussienne l'adopte. »
Mais alors du coup, ça pose la question de ça ressemble à quoi à l'époque? Ce que je veux dire, c'est est-ce que ce sont des batailles, c'est-à-dire vraiment l'échelon de l'officier, ou est-ce que c'est des campagnes comme les jeux qu'on peut connaître aujourd'hui? Enfin, je veux dire, si on parle de Wargame, enfin, l'image qui vient en tête spontanément pour un public un peu large, c'est des jeux à l'échelle de l'Europe ou du monde, comme le Risque ou le Diplomatie pour les connaisseurs. Voilà, à quoi ils jouent exactement?
Alors, c'est une, on va dire que l'échelle choisie est en règle générale une échelle qui va entre l'opérationnel et le tactique. La plupart du temps, alors un bon moyen de connaître un petit peu l'échelle du jeu, c'est de voir l'unité de base. Et l'unité la plus petite que l'on trouve sur les champs de bataille des jeux de Reiswitz, ce sont des compagnies ou des bataillons pour l'infanterie, des escadrons ou des régiments pour la cavalerie, des batteries d'artillerie. Donc on est vraiment sur des sur des jeux dans lesquels on va jouer...
Donc ça fait plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes.
C'est ça. On joue l'équivalent d'une division ou d'un corps d'armée qui rencontre une division ou un corps d'armée ennemi. Avec, en fait, un système d'adjudication qui est assez complexe, puisqu'on essaie de simuler le brouillard de la guerre en mettant des paravents au milieu de la table, de part et d'autre, pour que les officiers de chaque camp ne sachent pas précisément où se trouvent les unités de l'ennemi. Alors pour cela, évidemment, ils disposent de pions de cavalerie légère qu'ils peuvent déplacer en avant de leur force pour essayer de reconnaître un petit peu le dispositif de l'ennemi. Et puis, il y a tout un système d'ordre, en fait. Les officiers donnent des ordres qui sont ensuite transmis à d'autres officiers qui eux-mêmes déplacent les troupes sur la table, et avec un système de va-et-vient, ce qui rend parfois les jeux assez compliqués et assez longs. Mais ce qui est intéressant surtout, et c'est là où, à mon sens, le jeu d'Arisewitz est une étape importante, non seulement évidemment par son utilisation des cartes, c'est que c'est un des premiers jeux qui s'appuie sur un jeu de données, et en particulier sur les jeux de données qui ont été établis par Scharnhorst, qui est un grand réformateur de l'armée prussienne, et qui en fait, en 1812, a effectué toute une série de manœuvres avec des troupes d'infanterie pour tester en fait la létalité des armes à feu. Pour le dire très simplement, on a pris un bataillon d'infanterie, on l'a placé en ligne et on l'a fait tirer sur des planches de bois sur lesquelles étaient figurées des silhouettes de soldats, et on les a fait tirer à 30 mètres, 50 mètres, 75 mètres, 100 mètres, 150 mètres, pour regarder le nombre d'impacts qui frappaient, et ce qui a permis en fait aux Prussiens de disposer de statistiques relativement fiables sur la létalité des armes à feu en fonction de la distance.
Donc rapporté au Kriegsspiel, ça permet de mesurer en combien de temps, enfin quel peut être le rapport quand on fait donner une compagnie, enfin un bataillon, l'unité de base, en combien de temps il peut venir à bout. Et s'il peut venir à bout d'un
L'idée, c'est d'un combien ennemi. De pertes, globalement, on peut infliger à un bataillon qui est en face du sien quand il se trouve à 50 mètres, quand il se trouve à 100 mètres. Mais Reiswitz a aussi compris, et son père également, que malheureusement, la guerre ne se déroule pas comme à l'entraînement et comme au champ de tir. Il y a le stress, il y a la fumée, il y a les replis de terrain, il y a tout un tas d'accidents possibles, et du coup, on a décidé donc d'utiliser pour prendre en compte cela un système qui utilise des dés.
Alors, on va revenir dessus sur le système exact, mais ça marche. Enfin, je veux dire, vous nous avez donné l'anecdote là tout de suite du chef d'état-major prussien qui est convaincu pour qu'il essaye de l'adopter. Mais est-ce que à quelle vitesse ça va ? C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que ça passe d'un jeu de souverain à un jeu d'état-major large ? Dans quelle mesure c'est intégré ? Quelle ampleur ça prend, disons, dans ce première moitié du XIXe siècle et même un peu au-delà, quoi ?
Alors, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, il y a effectivement von Müffling promeut le jeu, et donc du coup, très rapidement, on se retrouve dans énormément de villes de casernement avec des exemplaires du jeu de Reiswitz qui sont utilisés. Alors, ils sont pas au départ, en tout cas, utilisés de manière aussi systématique qu'on pourrait le croire, c'est-à-dire que souvent, ces exercices ont lieu en dehors des heures de service. Le plus souvent, par exemple, le soir, aux messes, on peut organiser des parties. Il arrive qu'on en organise en journée, mais il n'y a pas de caractère véritablement systématique. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, on va dire de 1824 à peu près 1850-60, le jeu continue d'exister. Il continue d'exister, d'ailleurs il survit même à la mort de Reiswitz fils, qui meurt assez jeune, qui se donne la mort, parce qu'en fait il est parti de Berlin, il a été muté dans une garnison un peu éloignée, qu'il a pris cela pour une disgrâce. Mais son jeu lui survit, puisqu'en fait dès les années 1830, 1840, 1850, en fait le jeu continue d'être utilisé, et des nouvelles règles sortent qui prennent en compte les nouveaux types d'armement, en particulier le fait que les fusils tirent plus loin, que l'artillerie s'est perfectionnée, et donc du coup en fait des choses viennent s'ajouter à ce jeu de base.
Alors, justement, sur cette logique, disons, de croissance et d'inflation du Kriegsspiel, a lieu ensuite une phase qui est vraiment fascinante que vous décrivez, c'est une phase de crise du Kriegsspiel. Parce que, en fait, ce que vous décrivez, c'est que ça passionne tout le monde à un point que, évidemment, comme toujours dans ces cas-là, ça finit assez rapidement par plus devenir amusant ni utile du tout, parce que vous décrivez que le problème, c'est l'inflation des règles, et qu'en fait, on se met à faire des addendas aux addendas, et qu'on se met à avoir des corpus de règles tellement sophistiqués, qu'en fait, ça finit par plus servir à rien.
Absolument. Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une sorte de mouvement qu'on observe pendant pratiquement toute l'histoire de ces jeux de simulation depuis plus de 2 siècles. C'est qu'on part souvent de jeux relativement simples, et puis il y a une tentation qui est de rajouter des règles pour prendre en compte tel ou tel phénomène. Et en fait, cette tentation, elle est parfaitement compréhensible, puisqu'il y a une idée qui est que plus on va prendre en compte de facteurs, plus on va atteindre à une forme de réalisme. Et en fait, assez étonnamment, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a pu en faire d'ailleurs l'expérience lui-même dans la vie quotidienne. Chacune de nos journées est faite d'une suite de décisions et nous ne prenons pas en compte une trentaine, quarantaine, cinquantaine de données à chaque fois que nous prenons une décision. Nous en prenons en compte quelques-unes et puis nous décidons d'aller faire des courses à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Quand nous sommes sur la route, de décider que le moment est venu de doubler le véhicule qui est devant nous ou pas parce que nous avons la distance de le faire. Et pour cela, nous ne prenons pas en compte énormément de données, nous prenons en compte quelques-unes des données qui nous semblent les plus essentielles. Et effectivement, les jeux allemands finissent par prendre au sein de l'état-major une telle inflation, il y a tellement de règles, elles sont tellement compliquées, la vie des officiers étant ce qu'elle est, ils n'ont pas non plus un temps infini pour lire des règles qui sont de plus en plus longues, et au bout d'un moment, la pratique finit par tomber presque d'elle-même, les systèmes s'effondrent sous leur propre poids, tout simplement parce qu'on prend en compte trop de choses, et qu'à force de les prendre en compte, on brouille en fait la vue de ceux qui doivent prendre des décisions, qui finissent non plus par penser à leur stratégie, mais par étudier les règles et essayer de comprendre comment ils peuvent les utiliser à leur propre profit.
Alors ça pose une question qui est, je trouve, absolument fascinante, qui est dans la disposition et l'organisation du jeu, qui est celle des arbitres ou des maîtres du jeu. Et ça, je trouve vraiment ça captivant, parce que ça pose la question de la confiance qu'on a en les joueurs, et aussi éventuellement d'à quel point la situation qu'on cherche à représenter peut être modélisable. Ce que je veux dire, c'est que d'une manière générale, j'ai l'impression que plus un jeu est conventionnel, comme le Trivial Pursuit ou le Monopoly, ouais, par exemple, moins on a besoin d'un maître du jeu, en fait. Enfin, Monopoly, il y a la banque, mais on peut s'en passer, à vrai dire, assez facilement. Au contraire, quand on veut représenter le réel, dans une certaine mesure, on se retrouve assez rapidement à avoir un jeu qui colle pas tout à fait à la complexité de la situation, et où donc, quand on a des règles un peu impersonnelles qui n'imposent pas, en fait, une interprétation par un individu intelligent, bah, ça risque de taper un peu à côté de la simulation, en tout cas du côté réaliste. Donc ma question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on accepte à cette époque le côté conventionnel, donc ludique essentiellement, donc sans maître du jeu, et dans quelle mesure on va en faire un truc utile et pédagogique, mais qui du coup impose une sorte de dieu du jeu, le maître du jeu, l'arbitre, qui peut adapter la situation de jeu à la situation qu'on veut représenter.
Alors, en fait, il y a un point qui est très important, c'est que une simulation, c'est une modélisation, et que un modèle, c'est toujours faux, par essence. Donc, cette idée de courir après une masse de règles qui viendrait permettre d'envisager tous les cas de figure est une course qui est vouée à l'échec par essence. Donc du coup, il faut essayer d'aller vers le plus simple. Et c'est pour ça qu'à partir des années 1850-60, en Allemagne, se développe une pratique qui est celle dite du Freikriegsspiel. Pour le dire assez simplement, c'est presque un jeu de guerre sans vraiment de règles. C'est-à-dire que les règles sont connues par les arbitres. On demande juste aux joueurs ce qu'ils veulent faire et on leur indique les résultats de leurs actions. Parfois, on utilise à peine les dés. Alors, il y a une phrase qui est très connue des joueurs de jeux de rôle qui est prêtée à Gary Gygax, qui est l'un des inventeurs de Donjons et Dragons, et qui dit à propos du rôle du maître de jeu, les dés, ça sert à faire du bruit derrière le paravent. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, parfois il va arriver qu'on jette un dé, et on jette le dé souvent quand on n'est pas véritablement d'accord, quand les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la validité ou pas d'un tel mouvement, ou sur les effets qu'ils peuvent avoir. Mais on part toujours de l'idée que, à partir du moment où un mouvement est bien pensé, bien conçu, le dé peut éventuellement servir à juger si ce mouvement ou cette attaque, par exemple, a réussi de manière éclatante ou si elle a connu des retards. Mais globalement, de dire, voilà, à partir du moment où l'attaque a été bien menée conventionnellement et comme il le faut, normalement, on va dire, ça passe. Et ça évite aux joueurs de se concentrer sur des règles, mais plutôt de se concentrer sur ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils veulent faire.
Donc on sous-traite les règles aux arbitres.
Exactement.
Et les joueurs essayent d'évoluer dans le brouillard de règles qu'ils ne connaissent pas vraiment.
C'est cela, absolument. Sachant que le brouillard de la guerre, ici présent, le Kriegsspiel, le wargame, permettent aussi de comprendre une chose importante dans cette notion du brouillard de la guerre, c'est que le brouillard de la guerre, c'est soi-même en premier lieu. C'est-à-dire que quand vous... faites des jeux dans lesquels vous avez une équipe d'officiers qui affronte une autre équipe d'officiers, plus vous avez d'intervenants dans cette chaîne de commandement, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, plus vous multipliez les possibilités d'une mauvaise interprétation des ordres, d'ordres qui soient mal exécutés ou qui arrivent en retard, et qui, le tout additionné et cumulé sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 personnes, finissent par produire une forme de chaos, qui devient extrêmement compliqué à gérer pour la personne qui est en charge de l'ensemble du théâtre d'opération.
Mais c'est ça, souvent, l'échelle. C'est deux équipes de rugby, quoi. Enfin, c'est-à-dire...
C'est ça. À cette époque-là, oui, effectivement. On est souvent sur une quinzaine, vingtaine de personnes qui jouent de part et d'autre.
Ouais, donc on mesure la difficulté de coordination. Mais alors, justement, on est dans des jeux de compétition.
Oui.
La guerre étant l'archétype absolu de la compétition, avec la vie ou la mort. Avec des militaires,
oui,
qui jouent, qui veulent gagner, parce que c'est leur métier de gagner la guerre. Ça se passe bien ? Enfin, je veux dire, on se retrouve pas avec des drames, des duels sur le pré à la sortie de la soirée ?
Alors, c'est pas vraiment quelque chose qui est très documenté, mais par contre, ce qui est assez clair, c'est que on se rend compte, et beaucoup d'études ont été faites là-dessus, en particulier au sein de l'armée américaine et de la marine américaine, sur l'importance d'avoir, on va dire, des populations homogènes qui sont autour de la table. Parce que pour le dire assez simplement, un général 2 étoiles n'a pas envie de se prendre une pilée par un adjudant en chef. Voilà. Et du coup, le principal problème, c'est que ce que je viens de dire là génère tout un tas de difficultés autour de la table. C'est-à-dire que l'adjudant en chef va-t-il taper aussi fort que ce qu'il devrait taper s'il sait que la personne qui est en face de lui est son supérieur hiérarchique à plusieurs échelons ?
Et qu'il y a moyen de se ramasser une corvée pendant un certain
temps. Voilà. En face, l'autre va peut-être se trouver paralysé à l'idée de perdre face à quelqu'un qui est son subordonné. Et donc, du coup, ça crée des tensions et ça crée des difficultés. Et c'est pour ça que souvent, on essaye d'organiser des parties avec des populations qualifiera de relativement homogène autour de la table pour éviter précisément ce type de problématique.
Alors, vous avez commencé à parler de la marine, c'est pas tout à fait un hasard, on va en reparler largement, mais il y a une immense tradition navale du wargame. Mais justement, c'est l'étape suivante, quasiment chronologiquement, puisqu'on est un peu sur un ordre chronologique, c'est à partir de la fin du 19e siècle, en fait, il y a un moment où le wargame devient essentiellement naval, enfin, à partir de ce moment de désuétude en quelque sorte du Kriegsspiel qui s'effondre sous son propre poids que vous nous avez décrit, bah, en fait, ceux qui récupèrent le wargame et qui en trouvent une utilité, c'est les marins. Alors, bah, pourquoi et comment ? Pourquoi est-ce que c'est eux et pourquoi est-ce que ça se cristallise à Suez ? Pourquoi est-ce que c'est si utile aux marins à cette époque-là, donc fin du 19e et début du 20e siècle ?
Alors, déjà parce que évidemment c'est une période de transition pour les marines, c'est la période dans laquelle la marine à voile est en train de disparaître, et à la fin du 19e elle aura pour ainsi dire quasiment disparu, avec des navires qui cette fois-ci sont à propulsion mécanique. La simulation de la guerre navale avec des navires à voile présente tout un tas de difficultés. à commencer par le fait qu'il faut représenter évidemment le vent, des manœuvres au vent, etc. C'est évidemment tout à fait faisable. Hein. Aujourd'hui, il existe de très nombreux wargames qui sont très pertinents et extrêmement bien faits sur cette période-là. Mais il se trouve que c'est quand même assez compliqué. Et à cette époque-là, on n'a pas une tradition de la création de jeux, de ce qu'on appelle le game design, suffisante pour réussir à produire des jeux qui soient faciles à utiliser. Il se trouve que la guerre navale présente beaucoup d'avantages et que le Kriegsspiel présente beaucoup d'avantages pour les marins. Le premier, c'est qu'effectivement, les navires sont équipés de canons qui ont un calibre, qui ont une portée, qui ont un potentiel de pénétration variable en fonction de la distance à laquelle ils tirent, un nombre de pièces, etc., un blindage, et que du coup, en fait, on dispose de données brutes extrêmement nombreuses, et en particulier, alors ceux qui connaissent le sujet connaissent sans doute évidemment les annuaires de Fred Jane, qui continuent d'être publiés. Il y a les Jane, il y a le Conway, qui sont en fait des annuaires dans lesquels on trouve les statistiques et les caractéristiques techniques de tous les navires. En fait, ils sont édités à partir de la fin du 19e siècle. Vous avez le tonnage, le nombre de pièces, leur calibre, etc., etc., leur blindage. Et en fait, Fred Jane, qui est donc l'auteur qui est l'auteur de ces annuaires, qui s'intéresse beaucoup aux questions navales, et qui s'intéresse aussi aux jeux, décide de publier en fait un jeu qui utilise, il est aussi là évidemment pour vendre ses annuaires, un jeu qui utilise en fait ces annuaires pour produire des jeux. Et ces jeux, ils vont être adoptés assez rapidement, alors par la marine américaine en particulier. De manière assez intéressante, l'armée américaine avait été contactée par quelques personnes qui souhaitaient que le jeu soit adopté. Et il se trouve que le chef d'état-major de l'armée américaine, au moment où ces tentatives avaient été faites, n'était autre que le général Sherman. Et que le général Sherman s'était montré extrêmement dubitatif en disant que les wargames ne l'intéressaient pas, parce que pour lui, la guerre, c'était une question d'hommes et donc de sang et donc de chair, et qu'il ne voyait pas en quoi on pouvait tirer une quelconque conclusion du maniement de petits pions de bois censés représenter des hommes. Alors, il se trouve que cette question de la chair et du moral, elle est évidemment présente dans le combat naval, mais elle l'est, entre guillemets, moins prégnante, puisque effectivement on a tendance à percevoir le combat naval avant tout comme des luttes entre des systèmes d'armes différents, en l'occurrence les navires. Et donc du coup ces Américains, en particulier les Américains, mais également les Russes, également les Japonais, vont s'emparer très rapidement dès la fin du 19e siècle de plusieurs règles de jeu qui sortent, alors soit qui sortent dans le commerce comme la règle de Fred Jane, soit qui vont être ensuite adaptées au sein des états-majors pour former les officiers à des questions tactiques, stratégiques et opérationnelles.
Mais ça, c'est fascinant, parce que vraiment toute la première moitié du XXe siècle, ça va être une période où tous les états-majors navals vont jouer en permanence, enfin en tout cas les principaux américains, anglais, japonais et russes. Et alors, pas tant que ça dans la Première Guerre mondiale, mais on va avoir une sorte de révélateur fascinant dans la Deuxième Guerre mondiale qui va être notamment avec la bataille du Pacifique. Il va être une sorte de duel d'école de wargame, puisque ça va être l'école de wargame, enfin, c'est-à-dire tous les officiers navals américains qui ont tous fait du wargame pendant leur formation, face aux officiers navals japonais qui ont tous fait du wargame pendant leur formation. Et donc, ça va être comme une sorte de vérification un peu in situ, dans le Pacifique, avec des vrais morts et des vrais bateaux coulés, etc., de ce qui se faisait dans les écoles militaires pendant les 20, 30, 40, 50 ans précédents.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette période de la Deuxième Guerre mondiale va effectivement voir, en particulier au niveau du Naval War College, l'application d'exercices qui ont été effectués depuis de très nombreuses années. Il faut savoir que ces règles navales, on en trouve des exemples dans toutes les marines importantes à la fin du 19e, au début du 20e. Elles sont mentionnées par exemple dans des revues navales françaises. Il y a une des règles qui sont produites par la marine italienne par exemple. Donc on trouve plein de règles. Par contre, pratiquement aucune marine ne va les utiliser de manière aussi systématique que la marine américaine et, dans une un petit peu moindre mesure, la marine japonaise. Il se trouve que dans les années 30, Par exemple, dans les années 20 et 30, la marine américaine va organiser un grand nombre de simulations de conflits dans le Pacifique, ce qu'on appelle le plan orange, puisque en l'occurrence la marine américaine utilise des plans de couleur pour désigner ses différents adversaires, et que orange c'est le Japon. Et on effectue de très très nombreuses simulations à l'échelle opérationnelle sur la guerre dans le Pacifique. Quand je dis très nombreuses, en l'espace de 20 ans, c'est plus de 200. Donc c'est un chiffre extrêmement important.
C'est qu'ils passent leur journée à ça, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des semaines entières qui sont dédiées à ces études stratégiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'amiral Nimitz le raconte très bien dans ses mémoires et dans certains discours qu'il a pu faire auprès des élèves de l'école navale américaine. L'ennemi donc principal sur lequel ils ont travaillé, c'est le Japon, et une partie de leurs exercices leur ont montré qu'en fait, ce qu'ils prenaient pour un acquis n'en était pas un, à savoir le fait que si les Japonais décidaient de lancer une attaque surprise dans le Pacifique, ce qui était une probabilité vraiment envisagée comme étant forte, je rappelle qu'ils avaient déjà effectué une attaque surprise en 1904 contre les Russes. Les Japonais n'avaient pas pour habitude de prévenir avant de lancer leur attaque. Donc on s'attendait effectivement à ce type d'attaque, et on s'est rendu compte assez rapidement que les Philippines, qu'on pensait être un secteur relativement à l'abri et qui pourrait tenir assez facilement, tombaient quasiment de manière systématique, parce qu'en fait les communications étaient coupées, qu'il était impossible ensuite d'approvisionner les troupes et encore moins d'y manœuvrer des navires, parce qu'on était en fait trop loin des bases arrières américaines, et qu'il allait certainement falloir se replier et ensuite envisager cette fameuse stratégie qu'on a appelée la stratégie des sauts de puce, qui permettait de se rapprocher petit à petit de l'archipel du Japon. Alors moi, ce qui m'a étonné quand j'ai travaillé là-dessus...
Oui, dans quoi c'est pas là que les Japonais ont attaqué, évidemment.
Non, évidemment, ils ont attaqué ailleurs, et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'en fait...
Donc en plutôt attaqué par l'arbor.
Ils ont attaqué par l'arbor,
c'est-à-dire directement l'endroit où étaient tous les navires de la flotte pacifique.
Et ce qui est très intéressant, c'est que précisément, il ne semble pas que les Américains soient allés jusqu'au bout de cette logique. C'est-à-dire qu'ils ont compris que si les Japonais décidaient de passer à l'offensive dans le Pacifique, ils le feraient certainement de manière surprise et brutale, et qu'ils pensaient qu'ils allaient s'emparer assez rapidement des Philippines et puis effectivement de l'Indonésie, voilà, parce que c'est les secteurs dont ils avaient besoin pour poursuivre leur guerre contre la Chine. Sans aller jusqu'au bout de se dire tout simplement que les Japonais, ayant identifié la seule puissance susceptible de les interrompre dans le développement de leur stratégie, à savoir la flotte américaine, il convenait pour eux, en premier lieu et avant toute chose, de se débarrasser de cette menace, et donc d'attaquer par l'arbor. Alors, la probabilité avait été envisagée, mais elle n'a jamais été véritablement sérieusement étudiée, et il se trouve que, effectivement, en décembre 1941, c'est là que les Japonais ont frappé, mais c'est là que les Japonais ont frappé à côté, si je puis me permettre, parce qu'effectivement, comme le disait très bien aussi Nimitz à la fin de la guerre, il disait en substance que si Dieu avait voulu favoriser les Américains, il ne leur aurait pas rendu plus fier service que de permettre aux Japonais de couler des cuirassés américains dans la rade de Pearl Harbor, parce qu'il s'est avéré effectivement par la suite que ces navires ont joué un rôle extrêmement secondaire dans l'ensemble de la guerre du Pacifique, ce qui a été véritablement l'élément prépondérant de cette guerre. Ça a été la dimension aéronavale et donc les porte-avions. Et les porte-avions étaient absents le jour de l'attaque japonaise à Pearl Harbor.
Mais là où c'est assez intéressant aussi, ce cas particulier de la guerre du Pacifique, c'est que ça pose aussi quelques limites de la modélisation. Par exemple, vous écrivez qu'un certain nombre des défaites américaines pendant la guerre du Pacifique proviennent du fait qu'ils jouaient à partir d'un principe assez réel, qui est le principe de la supériorité du canon sur la torpille. Bon, c'est un truc assez vérifié d'une manière générale, que c'est ça qui conditionnait leur wargame d'une manière générale. Sauf qu'ils ne prenaient pas en compte le fait qu'il y allait avoir des nouvelles torpilles japonaises, les torpilles qu'on a appelées ensuite les torpilles longue lance, qui étaient des torpilles qui avaient une portée de plus de 20 km, ce qui était à peu près inconcevable à l'époque. Donc, dans une certaine mesure, ça pose les limites et les dangers de la modélisation.
Alors, ça les pose, et ça les pose même à plusieurs titres, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est là où on voit qu'il y a deux traditions, en fait, de simulation qui se sont affrontées aussi. C'est-à-dire que les Américains se sont essentiellement concentrés sur les questions opérationnelles et stratégiques. Les Japonais se sont concentrés sur les questions opérationnelles et tactiques. Et eux, ils ont vraiment mis l'accent beaucoup dans leur formation sur le combat de surface. Alors, il se trouve que le combat de surface, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, pendant la guerre du Pacifique. Les deux grandes actions de surface, on va dire, c'est la bataille de la mer de Java, début 42 de mémoire, et puis c'est la campagne autour de Guadalcanal à partir d'août 1942. Et il se trouve que début août 42, au moment où les Américains débarquent à Guadalcanal, eh bien la marine japonaise leur inflige une cuisante défaite à la bataille de Savo Island. C'est une bataille qui se déroule de nuit dans un terrain, dans un chenal. En fait, hein, il y a vraiment très peu d'écart et très peu de distance entre les navires. La flotte japonaise parvient à se glisser littéralement à l'intérieur du dispositif américain avant d'ouvrir le feu. Et il y a un élément de surprise complet. Les Américains sont absolument pas formés au combat nocturne, alors que les Japonais, eux, s'y sont préparés depuis assez longtemps. Et en fait, cette défaite cuisante, hein, les Américains perdent plusieurs navires dans cette bataille, va quand même leur servir malgré tout à se dire que ils sont pas forcément aussi bien formés qu'ils le pensaient sur le plan tactique, mais ils vont apprendre. Par contre, sur le plan opérationnel, ils ont une nette supériorité, parce qu'effectivement ils ont une vision beaucoup plus globale que ne l'ont les Japonais. Did you buy your tickets for the war game? Aren't you glad that you're sitting in the back? For the game is deadly heavy for the players. Aren't you glad it's a spectator sport? Don't you hear the cries? It isn't over. Can't you smell the fear? It's all over. If you want to play the game, you must have training. Use your sign, pick your toy, but play to win. Don't be sad if you lose, it isn't over. Choose a sign and begin the game again.
Alors, d'une manière générale, tout ça nous permet maintenant d'aborder un sujet qui est important, qui est les limites au wargame ou au Kriegsspiel en tant qu'outil de formation ou outil d'entraînement militaire. Bon, là, on a ce qu'on vient d'évoquer, c'est un exemple typique, c'est la modélisation erronée, ça pardonne pas. Enfin, ce que vous avez dit, c'est que tout modèle est par essence faux, mais il y a quand même des modèles beaucoup plus faux que d'autres. Oui. Et bon, quand on s'entraîne sur des modèles proches ou identiques, qu'on se conditionne, qu'on prend des réflexes, puisque c'est aussi ça le propos du wargame ou du Kriegsspiel, c'est de prendre des réflexes, apprendre à fonctionner en fonction de paramètres qui sont donnés. Si ces paramètres sont faux, enfin s'avèrent faux sur le terrain, comme dans le cas de la torpille par exemple, ça implique de se reconfigurer, de désapprendre et de réapprendre de nouveaux réflexes, ce qui est extrêmement difficile et ce qui par ailleurs a évidemment des conséquences particulièrement dramatiques sur le terrain, sur le champ de bataille.
Alors, bien entendu, en fait, encore une fois, le wargame est un outil, et comme tous les outils, il a ses limites. Le wargame, ça ne permet pas le wargame, ça permet d'organiser ses idées. Le wargame, ça permet d'identifier des problèmes. Ça permet aussi de se poser des questions qu'on ne se poserait pas, d'imaginer éventuellement les conséquences aussi d'actions qu'on a prises. Par contre, ça ne permet pas du tout de prédire l'avenir. Ni de valider des théories et encore moins de produire des données. Et surtout, un des gros problèmes, effectivement, du wargame potentiel, c'est celui de ce qu'on pourrait appeler le biais de confirmation. C'est-à-dire que si les personnes qui ont créé un jeu ou créé un exercice sont persuadés que la stratégie qu'ils veulent mettre en pratique et tester est bonne, dans le jeu qu'ils vont faire, nécessairement, ils vont introduire une forme de biais qui est susceptible de produire des résultats qui vont évidemment être très rassurants pour ceux qui ont produit la stratégie. Ah, génial, ça marche. Sauf que, au final, effectivement, on se rend compte que ça ne marche pas. Alors, il y a un excellent exemple pour ça, c'est les parties de Kriegsspiel qui sont organisées par la marine japonaise juste avant l'attaque de Midway. Où on attaque avec 4 porte-avions, donc en fait on est en train de répéter l'action qui va se dérouler le 4 juin 1942. Et il se trouve que le camp américain fait décoller des bombardiers depuis Midway et que ces bombardiers coulent 2 porte-avions japonais. L'arbitre décide que c'est totalement irréaliste, interrompt la partie, on ressuscite, si j'ose dire, les 2 porte-avions et on continue l'exercice. Alors, cet exemple-là, il a été montré du doigt en disant que, effectivement, c'est l'archétype de ce qu'il ne faut pas faire dans une partie de wargame. C'est-à-dire, à partir du moment où il se produit un événement qu'on estime aberrant, l'écarter parce qu'on ne veut pas en entendre parler. Mais on oublie aussi que l'arbitre de cette partie, avait la raison pour laquelle il avait annulé en fait cette destruction. Il l'avait annulé parce qu'en fait le système de jeu avait permis à des bombardiers B-17, donc des quadrimoteurs, de couler des porte-avions. Il estimait que c'était pratiquement impossible que des bombardiers faits pour du bombardement à haute altitude puissent couler des porte-avions, ce qui objectivement fait plutôt sens. Par contre, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que cet arbitre avait dit, mais avait demandé aux gens qui avaient fait le plan, lui, il n'était pas impliqué dans ce plan, avez-vous envisagé la possibilité que des porte-avions américains puissent arriver par le nord ou par le sud et attaquer la flotte japonaise pendant qu'elle-même est en train de bombarder l'île de Midway ? Les réponses qui lui ont été faites n'étaient pas extrêmement claires, il était manifeste que cette chose n'avait pas été véritablement envisagée. Il faut dire aussi qu'un des éléments qui n'est pas pris en compte dans ce wargame organisé par les Japonais, c'est qu'ils sont persuadés d'avoir coulé un porte-avions américain à la bataille de la mer de Corail, qui en fait n'a pas été coulé et qui sera effectivement présent. Donc là, on est vraiment dans l'archétype de... on fait un jeu sur lequel qui s'appuie sur des données ou sur des éléments en fait qui s'avèrent être inexacts et qui produit évidemment un mauvais effet. Il se trouve qu'au final, les Japonais n'ont pas perdu 2 porte-avions mais 4, que ça a donc été un véritable désastre et qu'effectivement des bombardiers ont bien décollé de Midway, qui étaient des quadrimoteurs, qui n'ont absolument fait aucun dégât sur la flotte japonaise. Par contre, c'est l'aviation embarquée à bord des porte-avions américains et dont effectivement un porte-avions, entre guillemets, lui, véritablement quasiment ressuscité, qui a provoqué le désastre côté japonais.
Mais alors si on continue d'essayer de parler un peu des angles morts du wargame, même si on envisage que c'est bon un truc d'aide à la décision, voilà, d'aide au processus de prise de décision, d'aide au process d'état-major, au jeu d'anticiper l'attaque de l'ennemi, il y a quand même un point faible sur les situations même de prise de décision, en quelque sorte. C'est-à-dire débattre et décider sur un wargame, c'est-à-dire un jeu de plateau autour d'une table... confortablement dans un Naval War College ou dans n'importe quelle école militaire, c'est quand même pas exactement la même chose que d'essayer de prendre une décision quand on se fait pilonner par l'ennemi, par l'artillerie ennemie, ou quand on voit des blessés arriver dans tous les sens. C'est-à-dire, donc, comment est-ce qu'on résout en quelque sorte cette difficulté qui est que la prise de décision est elle-même soumise à un environnement et à une urgence et à des choses qui sont pas modélisables dans un milieu sécure en quelque sorte?
Alors, le professeur Phil Sabine du King's College a coutume de dire, et je le rejoins tout à fait, que le wargame a un avantage, c'est qu'il ne fait pas de mort, et il a un inconvénient, c'est qu'il ne fait pas de mort. Effectivement, on pourrait être tenté de dire que, c'est d'ailleurs ce que disait Sherman en substance, hein, qu'un jeu que l'on pratique tranquillement, à l'abri, effectivement, dans un bâtiment, loin du théâtre des opérations, loin du fracas de la guerre, loin du risque aussi, n'a pas forcément la même validité, ou en tout cas une validité extrêmement relative. Alors, cela, les gens qui utilisent le wargame en sont parfaitement conscients. Encore une fois, il s'agit d'une modélisation du réel, et que cette modélisation, encore une fois, c'est un modèle, et donc il est faux par essence. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le wargame, c'est pas véritablement cette question-là. C'est qu'en fait, ce qui est au cœur du wargame, c'est la tension. c'est-à-dire le choc des volontés, et donc la tension qui existe. Et ce qui est assez frappant de constater lorsque l'on organise des parties de wargame, c'est que cette tension, elle existe. Alors évidemment, les participants à un wargame, en tout cas au moins on peut l'espérer, ne craignent pas de mourir s'ils perdent. C'est pas l'enjeu en général hein, d'une partie de wargame. Ils peuvent éventuellement craindre d'être ridicules s'ils sont vaincus à plate couture. Et c'est une tension, en fait. Essayer d'imposer sa volonté à l'ennemi, essayer de faire en sorte de l'empêcher de vous l'imposer,
oui, mais vous voyez,
c'est une forme de tension.
Oui, il y a des catégories qui seront, par exemple, l'audace, l'intrépidité, faire une manœuvre audacieuse, imprévue, etc. Ça, c'est des trucs qui sont très bien, même quand on est entre officiers, on se dit « Ah bah non, mais c'est parce que j'ai été trop ambitieux, c'est pas grave, je suis trop avant-gardiste. » Quand il s'agit d'envoyer un bataillon, un porte-avions, une flotte se faire décimer, j'espère bien qu'on y réfléchit un peu plus, quoi. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont... Enfin voilà, il y a personne qui meurt à la fin.
C'est ça. Et donc effectivement, c'est une source de problème, mais qui est une source de problème, entre guillemets, qui est parfaitement identifiée. C'est-à-dire que une des constantes qui est montrée, alors pas uniquement d'ailleurs sur les wargames, c'est quelque chose qui est observé par exemple les gens qui travaillent sur les simulateurs de vol. Il est évident que les pilotes qui sont dans des simulateurs de vol tentent des manœuvres beaucoup plus audacieuses que ce qu'ils auraient tendance à faire s'ils étaient réellement aux commandes de leur avion. C'est vrai pour tout, en fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire des choses, sans doute, qu'on ne ferait pas en temps réel. Mais c'est précisément aussi un des intérêts. J'en reviens pour le coup, on revient sur un événement ou sur un élément de réflexion qui est plus ancien, qui sont les travaux de John Clerk à la fin du XVIIIe siècle. John Clerk, en fait, s'est intéressé aux questions de la tactique navale. Donc, il a produit un essai dont j'imagine vous avez déjà entendu parler, qui est Essay on Naval Tactics. Je crois que c'est un peu un sujet que vous connaissez. Et il se trouve que John Clerk a fait partie des gens qui ont réfléchi parmi les premiers à la manière de sortir de cette impasse qui était celui de l'affrontement de ligne à ligne, en en arrivant à la conclusion que finalement, la bonne solution consistait sans doute à essayer de tronçonner la ligne de l'ennemi, donc c'est-à-dire à marcher sur lui, et ensuite à le défaire en petits paquets. Cette tactique-là, si j'ose dire, elle paraît totalement contre-intuitive, en fait. On se dit, mais quel serait l'intérêt d'avancer vers l'ennemi en risquant d'être sous son feu, alors que les navires de l'époque tirent à bâbord et à tribord, ont quelques pièces de chasse éventuellement à l'avant ou à l'arrière, mais en tout cas rien qui leur permette de lutter face à des bordées entières de canons, de navires de 74 canons. Et en fait, ils le testent sur une table avec des petits modèles réduits de bateaux, et il en arrive à la conclusion que potentiellement ça pourrait se tenter. Et donc du coup, il en discute ensuite avec l'amiral Rodney. L'amiral Rodney lui aussi a déjà réfléchi à cette question-là et envisage assez sérieusement cette chose-là. Et cette pratique, elle va être mise en pour la première fois cette idée va être mise en pratique pour la première fois par la Royal Navy lors de la bataille des Saintes en 1782 et provoquer un véritable massacre de la flotte française de l'amiral de Grasse. Donc en fait, les wargames, ça permet aussi de tester des choses qu'on ne testerait pas précisément sur le champ de bataille ou dans le feu de l'action, mais dont on peut se rendre compte au final, non pas forcément que ça paye, parce qu'encore une fois c'est un jeu, mais qu'en tout cas ça mérite d'être considéré.
Mais alors, on s'aperçoit qu'on évolue depuis tout à l'heure dans un milieu très international, donc avec des grandes écoles de wargaming, des grandes traditions américaines, japonaises, anglaises, etc. Et en France, c'est-à-dire, bon, ça existe dans une certaine mesure, je divulgue pas de grands secrets en disant que vous êtes un wargamer, vous organisez des choses, et vous organisez des choses aussi avec des militaires dans une certaine mesure. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça, qui connaît un militaire et un officier, c'est que ça n'a rien d'incontournable, c'est absolument pas quelque chose d'obligatoire dans la formation d'un officier. A contrario des héritiers de cette grande tradition, je veux dire, il suffit, ce que je recommande dans l'absolu, mais de faire un tour sur l'excellent site américain qui est War on the Rocks, qui est un des grands lieux du débat stratégique aux États-Unis. Il suffit de taper Wargaming, mais même pas de taper Wargaming, parce qu'il y a des articles partout. C'est-à-dire, le Wargaming, on voit qu'il y a des tribunes, il y a des articles, il y a des prises de position sur le Wargaming, parce que c'est très 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 central dans le débat stratégique et militaire américain. Pourquoi ? Parce que ça l'est dans la formation militaire, le Wargaming. Et donc il y a des tonnes de tribunes et d'articles sur la manière dont il faudrait jouer, dont on peut apprendre des parties, ce qu'on peut en attendre, ce qu'on peut pas en attendre. Or en France, Alors, c'est pas que c'est nul, mais c'est très très faible, c'est très très loin, c'est très très loin d'être une partie centrale de la vie des états-majors dans l'absolu. Si des militaires nous écoutent, enfin, je ne saurais trop les encourager à jouer, parce que vraiment, enfin, je veux dire, suffit de voir ce qui se fait aux États-Unis pour comprendre que, en tout cas, il y a une pratique qu'ils ont l'air de considérer enrichissante et qu'il est donc un peu bizarre de pas du tout l'avoir en France. Mais donc, dans la mesure où vous faites une histoire du wargame en France, c'est le thème de votre thèse, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas en France à ce point-là ?
Alors, c'est compliqué et simple à la fois. Il y a effectivement des questions de tradition. Alors, j'avais identifié dans une revue à la fin du 19e siècle une tribune assez intéressante où on a un officier qui prend position contre le Kriegsspiel en disant que de toute façon, déjà, c'est un nom étranger. Ça ne correspond pas du tout à... Alors, c'est une période dans laquelle on parle de génie de la race ou de génie français, etc. Et donc, il y a cette espèce d'idée que cette pratique du jeu serait totalement incompatible avec la manière dont les Français pensent.
On risquerait de faire la guerre comme des Allemands.
C'est ça. Bon, sauf qu'en 1870, on s'est rendu compte que c'était pas forcément une si mauvaise idée que ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir de, c'est précisément après 1870 et après la défaite, des officiers français de l'armée de terre commencent vraiment à s'intéresser au Kriegsspiel. Ils s'y intéressent entre autres choses parce qu'effectivement, on a bien vu qu'en 1870, l'armée allemande disposait manifestement d'un ascendant sur le plan opérationnel et stratégique sur l'armée française. Et qu'on s'est convaincu, alors à tort ou à raison, à mon avis plutôt à tort, que peut-être que la pratique du Kriegsspiel avait joué un rôle là-dedans. En fait, il n'y a jamais eu dans l'armée française, dans la marine française, d'utilisation et d'usage systématique de ces jeux. Ils ont été utilisés, on en trouve des traces à la fin du 19e. Il y a des traductions du jeu d'Helvig en français dès la fin du 18e siècle. Il y a un officier... Il y a aussi une autre traduction d'un jeu d'Helvig en 1807 ou en 1808 qui fait mention de l'existence d'un club de wargame à Paris, le premier recensé à mon sens, à ma connaissance en tout cas, mais il n'y a pas vraiment de tradition. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des officiers qui s'y intéressent malgré tout. Alors il y a par exemple un cas qui est assez connu, hein, qui est le cas du général Pretella, qui en fait, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, organise au sein de son état-major ce qu'on appelle une manœuvre sur carte, parce qu'en fait, en France, on préfère appeler ça manœuvre sur carte, sur ce qui pourrait advenir si l'armée allemande avait la curieuse idée de décider d'envoyer ses blindés à travers les Ardennes.
On mesure à quel point c'est un scénario de fiction.
Une science-fiction totale, évidemment. On se demande bien ce qui a pu lui passer par la tête à ce brave général Pretella. Néanmoins, les parties, le résultat des parties
personne n'oserait contourner la ligne Maginot, c'est complètement.
Ça n'aurait absolument aucun sens. Ce serait une absurdité totale. Mais bon, sait-on jamais, vous savez, les Allemands sont parfois un peu étranges, ils peuvent être un peu fantasques malgré leur côté très discipliné. Donc, sait-on jamais. Et donc, du coup, on le tente. Et les résultats du jeu sont un peu catastrophiques. C'est-à-dire qu'on se rend compte assez rapidement que les Allemands peuvent franchir la Meuse en quelques jours. Et qu'à partir du moment où ils sont là, eh ben, la situation française, en particulier au vu du plan qui est prévu, ne serait pas très très bonne. Alors, les informations finissent quand même par remonter auprès du général Gamelin, qui s'intéresse quand même à la chose et qui la considère, mais qui répond qu'en fait, c'est tout à fait possible après tout, mais que si jamais les Allemands faisaient cela, eh bien, il enverrait ses réserves, on colmaterait la brèche, et puis l'affaire serait entendue. Le principal problème, c'est quand le 13 et le 14 juin, les Allemands commencent à arriver sur la Meuse, eh bien, les fameuses réserves du général Gamelin, elles sont en Belgique, elles sont montées presque, elles sont presque arrivées en Hollande, hein, c'est l'armée du général Giraud, et que du coup, quand les Allemands commencent à passer la Meuse, eh bien, ils les franchissent exactement comme l'avait prévu le général Pretella, enfin prédit, non, j'ai pas envie de dire prédit, en tout cas comme avait montré que la chose était possible le général Pretella, eh bien du coup on n'a absolument plus rien pour les arrêter. Et je serais assez curieux, alors pour l'instant j'ai pas encore réussi à trouver de choses là-dessus, mais je serais assez curieux de savoir ce qu'ont pensé à ce moment-là les officiers qui avaient participé à cet exercice, de voir si j'ose dire se réaliser sur le terrain quelque chose qu'ils avaient joué dans le confort de leur état-major. Je pense que ça n'a pas dû être un moment très très agréable pour eux.
Et donc, fort de cette confirmation que le wargame ne servait à rien, la tradition ne s'est donc pas instaurée en France dans les années qui ont suivi.
On peut effectivement le dire comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'armée américaine les utilise depuis très longtemps, continue de le faire. L'armée britannique les utilise de manière extrêmement continue. L'armée française aussi utilise régulièrement des wargames. Il y a effectivement des gens, vous avez parlé tout à l'heure de Pierre Razou, qui a fait un gros travail pour essayer de promouvoir la pratique du wargame au sein de l'institution.
Mais alors, simplement, je vais le dire pour avoir côtoyé Pierre Razou quelques temps avant qu'il quitte l'IRSEM. Ça intéresse beaucoup les gens, je peux te dire que ça intéresse beaucoup certains militaires, ça intéresse beaucoup notamment les militaires américains quand ils viennent et quand ils songent à faire des coopérations. N'empêche que, je ne sais pas dévoiler des secrets, que dire que Pierre Razou n'est pas à la tête d'un état-major de wargaming gigantesque.
C'est un fait.
Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui s'en rendent compte. Le fait est que ça n'a pas de place institutionnelle, en tout cas pour l'instant, dans les armées françaises.
Alors c'était effectivement aussi, hein, je m'en cache pas hein, d'ailleurs, hein, dans le livre, hein, un des objets. Hein. Moi, l'objectif aussi du livre, à travers, au-delà de raconter l'histoire de cette pratique, c'est de poser cette question-là. Comment se fait-il que cet outil... encore une fois avec ses limites hein, qu'on a évoquées tout à l'heure, comment se fait-il que cet outil soit si peu utilisé, ou en tout cas de manière pas de manière aussi systématique qu'il peut l'être au sein de l'armée américaine, de la marine américaine, de l'armée britannique et d'autres armées, d'autres marines.
Et si certaines personnes, je répète que War on the Rocks est une ressource extrêmement riche pour... Si des militaires, par exemple, voulaient mettre en place du wargaming, enfin bon, ils pourraient s'adresser à vous aussi, mais s'ils veulent réfléchir à ce qu'on peut en attendre et comment on peut le faire, et je lisais ce matin encore un article sur comment on ferait du wargaming de cyberguerre, enfin bon, ça s'applique absolument à beaucoup de choses, et vraiment War on the Rocks, pour les lecteurs de l'anglais, c'est vraiment fourni d'immenses ressources là-dessus. Alors on pourrait évidemment continuer très longtemps à parler d'énormément de choses, par exemple de pourquoi est-ce qu'on se contente pas de faire des jeux vidéo, il y a des très bonnes raisons, mais on en avait déjà parlé avec Pierre Razou dans le dernier podcast. Mais juste une question quand même sur, pas sur les angles morts du wargaming, mais quand même sur son applicabilité à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, ma question c'est, est-ce que le wargaming a pas un petit, peut-être, problème d'applicabilité aux conflits désormais contemporains des grandes puissances, à savoir les conflits d'insurrection contre insurrection. C'est-à-dire, dans la mesure où tous les wargames que j'ai pu voir de près de loin, globalement sont avec des grandes puissances, avec des unités militaires relativement classiques, même si ça peut être dissymétrique, mais enfin bon, globalement c'est comme ça qu'on l'envisage. Est-ce que ça pose pas... Enfin, je veux dire, par exemple, si on prend l'exemple par exemple de l'Afghanistan depuis 2001, ou de l'Irak depuis 2003, on voit assez bien comment on peut jouer sur un jeu de plateau, avec des cartes, pas des cartes, des dés, pas des dés, etc. Enfin, avec un maître du jeu, pas un maître du jeu, mais on voit très bien comment on peut jouer l'invasion, comment on peut y réfléchir, comment on peut la préparer, etc. Et ensuite, bon, éventuellement transposition. Mais de fait, on voit que c'est pas ça qui a posé problème militairement, dans le cas comme dans l'autre. C'est toute la suite, l'implantation, la gestion de la puissance, de la population, la lutte contre les caches d'armes, la contre-insurrection, quoi. Donc, comment est-ce qu'on pourrait, si on peut, jouer ça, c'est-à-dire adapter le wargame, en tout cas aux problématiques les plus contemporaines des grandes puissances, c'est-à-dire les conflits d'insurrection?
Alors, on le fait déjà, en fait. On le fait déjà au sein, effectivement, par exemple, de l'OTAN et aussi au sein de l'armée américaine. On le fait tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, et le wargame a été un bon outil pour ça au moment de l'implosion de l'ex-Union soviétique. On s'est rendu compte, effectivement, que le wargame, et tout comme, effectivement, la pensée stratégique occidentale, avait résonné depuis plusieurs décennies, dans une logique d'affrontement de bloc contre bloc. Et puis d'un coup d'un seul, on se retrouvait alors avec un des premiers conflits qui a posé question à des wargamers qui ont commencé à travailler sérieusement dessus au sein de l'OTAN, qui était l'explosion de la Yougoslavie. Là, on se retrouve dans un théâtre d'opération, entre guillemets, on est presque en terrain inconnu. On a des acteurs qui sont voilà, on a en l'occurrence pour prendre la Yougoslavie, il y a les Serbes, les Bosniaques, les Croates, qui sont sur un terrain qui a pas, sur lequel il n'y a pas véritablement de ligne de front, puisque effectivement les populations sont relativement mélangées. On a des acteurs qui ne sont pas véritablement à proprement parler des acteurs étatiques, mais qui disposent quand même de forces conventionnelles, qui par ailleurs travaillent également avec des unités insurrectionnelles, des miliciens, etc. On est face également à des actions de type nettoyage ethnique, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. On est également dans un théâtre d'opérations dans lesquels les médias jouent un rôle absolument considérable. Et donc assez rapidement, en 93 ou 94, des chercheurs, en particulier britanniques, ont travaillé sur un jeu, justement sur la ex-Yougoslavie, en essayant de comprendre quelles pouvaient être les options en fait, qui étaient offertes. Et alors, l'idée était quand même de faire jouer des gens qui avaient un haut niveau de responsabilité au sein des états-majors, qui ont tous la même caractéristique, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc du coup, il va sans dire que ce sont des gens à qui on ne peut pas faire lire des règles de 45 pages. Ils n'ont pas le temps, leur temps est précieux et ils peuvent pas le perdre. Donc du coup, c'est la meilleure manière de faire en sorte que ça ne fonctionne pas, c'est effectivement de les amener sur des jeux très complexes. Donc on a décidé d'opter pour un type de jeu assez simple qu'on appelle les Matrix Games. En gros, et pour le dire simplement, chaque joueur joue un acteur, qui peut être encore une fois un État, un groupe insurrectionnel, une partie de la population, l'opinion publique internationale, les médias, des groupes, des ONG, bref, tous les acteurs qu'on peut retrouver en fait sur un théâtre d'opération aujourd'hui. Et à son tour de jeu, le joueur dit ce qu'il fait, l'action qu'il propose, la conséquence de l'action qu'il produit, et il donne trois raisons pour lesquelles cette action va, selon lui, produire les effets qu'il a annoncés. Alors, un exemple assez intéressant, c'est un jeu de ce type qui a été conduit au moment de l'invasion de l'Irak, la seconde, où on fait participer tout un tas d'acteurs et où la personne qui est en charge de l'armée américaine débute la partie et il dit « J'envahis l'Irak, je renverse Saddam Hussein parce que l'armée américaine est la plus forte armée du monde, parce que l'armée irakienne est dans un état déplorable et parce que Saddam Hussein est devenu très impopulaire. » Évidemment, cri d'orfraie autour de la table, puisque en quelque sorte, la partie vient à la fois et de commencer et de se terminer. Tout le monde dit, mais c'est pas possible. Voilà. Et, sauf que l'acteur en question dit, ok, moi je veux bien, mais prouvez-moi le contraire. Personne n'arrive à véritablement lui avancer des arguments contre cela. Le jeu aurait pu s'arrêter là. Mais les arbitres, fort intelligemment, ont dit, très bien. Alors maintenant, le joueur irakien. Et à ce moment-là, l'Américain se dit « Mais pas le joueur irakien, la partie est terminée, j'ai gagné. » Et au bout d'un moment, on finit par se rendre compte qu'en fait, bah oui, militairement, c'est gagné, mais que les autres acteurs peuvent commencer à agir, interagir, effectivement, faire des attentats, placer des caches d'armes, commencer à lever des milices, etc., etc. Et en fait, ce jeu a permis aux Américains de se rendre compte que finalement, la question, c'était pas celle de savoir s'ils allaient renverser Saddam Hussein, parce que ça, a priori, ça faisait pas trop débat. La question, c'était la suite. What next, comme on dit. Et ça, effectivement, on rentrait véritablement en terrain totalement inconnu. On se rendait compte assez rapidement, grâce à ce jeu, que la région allait se retrouver totalement déstabilisée. Et la question, c'est comment on fait pour la restabiliser, si j'ose dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui apparaissent de plus en plus de ce qu'on appelle des peace games, donc en opposition à war games, qui sont effectivement des jeux qui ont pour objectif d'essayer de comprendre comment, dans une situation de conflit, précisément, on arrive à sortir de cette situation de conflit et à revenir sur une stabilisation.
Très bien, merci beaucoup Antoine Bourguillot.
Merci à vous.
Alors je rappelle donc le titre de votre ouvrage, donc Jouer la guerre, une histoire du wargame, édité chez Passé Composé au ministère des Armées, dont on aura compris que c'est tant un livre d'histoire qu'une sorte de manifeste, ou en tout cas de tentative d'attirer l'attention sur le retard français, le décalage français dans la pratique du wargaming, notamment du point de vue institutionnel, mais pas seulement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi tout un versant évidemment civil au wargame, il y a un versant plus ludique, tout qui évidemment est important aussi, parce que ça se comprend aussi en continuum entre l'institution militaire.
Absolument.
Et ce que peuvent faire les gens aussi, puisqu'il s'avère qu'on n'est pas militaire du matin au soir, enfin, on l'est, mais on a aussi une vie en dehors, en général. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Commentaires qui sont toujours les bienvenus, tout comme vos notes et commentaires, notamment sur iTunes, ce qui aide grandement à la visibilité du podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.